La voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour, tout un plaisir de vous retrouver sur VOA Afrique pour le monde aujourd'hui. Une demi-heure d'infos et de décryptage de l'actualité dans la capitale américaine. Jacques Aristide et Anne Albertson vous accompagnent en ce jeudi 8 janvier 2015. Bonjour Anne.
Bonjour Jacques, bonjour à tous.
L'actualité dominée évidemment par l'attentat meurtrier perpétré hier dans les locaux de Charlie Hebdo à Paris. Un complice présumé se rend, un djihadiste et son frère toujours recherchés par la police. La planète est sous le choc, les dirigeants mondiaux condamnent l'acte et offrent leur aide à l'instar de Barack Obama.
Dans notre coopération antiterroriste avec la France, nous lui fournirons toute l'assistance dont nous sommes capables.
Dans l'actualité encore, en Côte d'Ivoire, arrestation du directeur de campagne de Laurent Gbagbo. En Guinée, l'opposition menace de chasser le président Condé du pouvoir s'il n'y a pas d'élection transparente. Et dans la partie magazine, une nouvelle technologie pour détecter rapidement le paludisme et sauver des milliers de vies.
So we take a high definition picture.
Nous prenons une image à haute définition d'un échantillon de sang. Nous séparons le globule rouge du reste, le globule blanc, les plaquettes et nous examinons chacun des globules rouges individuellement.
Également au programme, le billet de l'économie et la plage sportive.
Le siège de l'hebdomadaire satirique français Charlie Hebdo a donc été la cible hier d'une attaque armée qui a fait 12 morts. Des islamistes radicaux avaient promis de punir le journal pour avoir publié en 2006 des caricatures du prophète Mahomet. Jeudi a été déclaré jour de deuil national en France. C'est l'attentat le plus meurtrier dans le pays depuis 40 ans. L'un des suspects identifiés s'est rendu. Il est en garde à vue. La police recherchait activement jeudi deux frères, dont un djihadiste soupçonné dans l'attaque. Henri Francisque.
La police française a publié les photos des deux frères, Chérif et Saïd Kouachi, 32 et 34 ans, et lancé un appel à témoins. Ces personnes sont susceptibles d'être armées et dangereuses, a prévenu la préfecture de police de Paris, précisant qu'ils font l'objet de mandats de recherche. Leur complice présumé, Amine Mourad, 18 ans, s'est rendu à la police à Charleville-Mézières, dans le nord-est de la France, après avoir vu que son nom circulait sur les réseaux sociaux, d'après une source proche de l'enquête. Chérif Kouachi est un djihadiste connu des services antiterroristes. Il a été condamné en 2008 pour avoir participé à une filière d'envoi de combattants en Irak où il rejoignait les rangs de la branche irakienne d'Al-Qaïda, dirigée à l'époque par Abu Moussab al-Zarqawi. Plusieurs gardes à vue sont intervenus dans la nuit dans l'entourage des deux frères. Charlie Hebdo a perdu 5 de ses dessinateurs vedettes, dont les caricaturistes Charb, Kabu, Tinius et Wolinski, très connu en France.
Oui, solidarité internationale dans la lutte contre le terrorisme après la tuerie du président américain Barack Obama, son homologue russe Vladimir Poutine, en passant par la chancelière allemande Angela Merkel et le premier ministre britannique David Cameron. Les leaders mondiaux ont sévèrement condamné l'attentat. Washington a offert son aide à Paris pour que les auteurs soient traduits en justice. Les détails avec Félix Yepassis Zembrou.
Lors d'une réunion à la Maison-Blanche avec à ses côtés le vice-président Joe Biden et le secrétaire d'État John Kerry, le président Barack Obama a souligné que la France est la plus ancienne alliée des États-Unis. Il a offert l'aide de Washington pour traquer les responsables de l'attaque. Dans notre coopération antiterroriste avec la France, nous lui fournirons toute l'assistance dont nous sommes capables. Le Pentagone a fait savoir qu'il n'y a pas de menace spécifique pour le moment et dit n'avoir pas encore reçu une demande d'appui de la France. Pour sa part, le ministère américain de la Sécurité intérieure affirme qu'il continue de surveiller la situation aux États-Unis, qu'il n'y a pas de changement de position du gouvernement et que l'ambassade américaine à Paris poursuit ses activités normalement.
Le monde musulman a également condamné l'attaque, un survol des messages de soutien avec Lionel Gaïma.
Au Caire, la Ligue arabe a condamné avec force cette attaque meurtrière. L'institution Al-Azhar, autorité de l'islam sunnite, a déploré un acte contraire à l'islam. L'Arabie saoudite aussi a dénoncé un acte lâche rejeté par l'islam. Les Émirats arabes unis, Bahreïn, la Jordanie et l'Égypte se disent aux côtés de la France face au terrorisme. Mohamed VI, roi du Maroc, a exprimé sa profonde émotion en apprenant cette triste nouvelle. En Tunisie, Rachid Ghannouchi, leader du parti islamiste Ennahda, s'est dit horrifié. Pour le Qatar, souvent accusé de soutenir les islamistes en Syrie et en Libye, s'en prendre à des civils non armés est contraire à toutes les valeurs morales et humaines. L'Union internationale des oulémas, basée à Doha, a qualifié cette attaque de péché. Cet organisme est dirigé par l'influent prédicateur Youssef Al-Qaradawi, considéré comme l'éminence grise de frères musulmans à travers le monde.
Et des rassemblements de soutien ont été organisés hier dans plusieurs villes d'Europe et d'Amérique du Nord, comme cette manifestation devant le Newseum, musée consacré à la presse à Washington DC. À New York également, en dépit du froid, plusieurs centaines de personnes, en très grande majorité des Français, ont chanté la Marseillaise avant de scander « Charlie, Charlie » sur la place Union Square.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité en Afrique. En Côte d'Ivoire, le directeur de campagne de l'ancien président Laurent Gbagbo a été arrêté par la police hier soir. C'est ce que rapportent plusieurs médias ivoiriens en ligne. Selon eux, le docteur Adou Assoa a été appréhendé à sa résidence d'Abidjan pour être interrogé à la direction de la surveillance du territoire. Rentré du Ghana début novembre, l'ex-ministre de la Construction et de l'Urbanisme est candidat à la présidence de son parti, le FPI, le Front Populaire Ivoirien. Les raisons de l'arrestation du docteur Assoa demeurent incertaine hier soir, mais certains médias ont évoqué un lien avec des personnes arrêtées récemment à Tabou, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, accusées d'avoir mené des raids.
Coup de fil du secrétaire général de l'ONU hier au président congolais Laurent Kabila pour lui demander de lancer rapidement une opération afin de neutraliser les rebelles Hutu-Rwandais actifs dans l'est de la République démocratique du Congo. D'après un communiqué de l'ONU, Ban Ki-moon a rappelé à son interlocuteur qu'un ultimatum donné jusqu'au 2 janvier à ces rebelles pour déposer les armes et se rendre, mais que les forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR n'ont pas tenu leur promesse de désarmer. M. Ban a ainsi appelé à une action décisive contre ce groupe armé.
Lors d'un meeting hier, l'opposition guinéenne a menacé de chasser le président Alpha Condé du pouvoir si des élections transparentes n'étaient pas organisées en Guinée. Le rassemblement a eu lieu malgré des heurts entre des militants et des éléments de la sécurité devant le siège du RPG arc-en-ciel au pouvoir, nous rapporte notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
Discours musclés, des critiques contre le pouvoir exécutif, mais aussi contre la Commission électorale nationale indépendante. Aboubacar Sylla, porte-parole de l'opposition.
On avait suspendu volontairement nos meetings, mais ce n'était pas parce que nous avons peur de ce régime. Nous avons affaire à un pouvoir qui n'aime pas le dialogue. L'accord politique interguinéen du 3 juillet a été violé la presque totalité de ses dispositions. Aujourd'hui, on a un dialogue pour la première fois dans le monde entier et un dialogue pour lequel il n'y a pas d'accord. La CENI ne joue plus son rôle. Elle n'est plus une CENI paritaire, elle est une CENI qui a été complètement mise sous la tutelle de l'exécutif. Elle ne peut plus jouer son rôle de CENI indépendante.
C'est le chef de file de l'opposition guinéenne qui boucle la série de discours. Celui d'Alain Diallo a averti le président Condé.
Nous allons exiger que nos droits soient respectés, que les règles et les principes démocratiques soient respectés, que les droits humains soient respectés. Et nous allons nous mobiliser pour chasser Alpha Condé.
Nous 2015 est une année électorale en Guinée avec les communales et la présidentielle. Les partis politiques réunis au sein de l'opposition républicaine demandent avant la recomposition des membres de la Commission électorale nationale indépendante et bien d'autres. Sinon, nous exigerons le départ de Alpha Condé avant même les élections, a menacé le chef de file de l'opposition. Conakry, Zakaria Camara, pour la Voix de l'Amérique.
L'armée ougandaise a confirmé que Dominique Ogwen, l'un des principaux chefs de la sanglante armée de résistance du Seigneur, la LRA de Joseph Kony, s'est rendu. Il est entre les mains des forces spéciales américaines en Centrafrique. La fièvre hémorragique Ebola fait 8235 morts, pour l'essentiel au Libéria, en Guinée et en Sierra Leone, sur un total de 20747 cas recensés à la date du 4 janvier, depuis que l'épidémie s'est déclarée en mars dernier. C'est ce qu'a fait savoir hier l'Organisation mondiale de la santé. D'après l'OMS, 838 professionnels de santé ont été contaminés et 495 d'entre eux sont morts de la maladie. Certains signes laissent penser que l'épidémie s'est peut-être stabilisée en Sierra Leone, mais ce pays demeure de loin le plus durement touché, a ajouté l'OMS. Ailleurs dans le monde, attentat à la voiture piégée devant une académie de police à Sanaa, capitale du Yémen. Bilan, au moins 30 morts et 40 blessés, selon les autorités locales. La milice chiite qui contrôle Sanaa et d'autres régions du pays a condamné l'attaque qui n'a pas encore été revendiquée. La capitale yéménite est en proie à des troubles récurrents depuis la chute du dictateur Ali Abdullah Saleh. Il est l'heure maintenant de la Minute Éco, l'actualité économique en Afrique et ailleurs dans le monde, avec Jean-Roger Bion. Bonjour Jean-Roger.
Bonjour Jacques.
Cameroun, l'administration fiscale adopte le paiement électronique.
Le fisc camerounais a introduit une procédure de paiement en ligne pour les usagers en partenariat avec deux opérateurs de téléphonie mobile. C'est pour le moment les métropoles de Douala et de Yaoundé qui en bénéficient. Et le paiement électronique ne vise pour le moment que la taxe sur la propriété foncière en attendant l'élargissement de ce type de service à d'autres catégories de contribuables.
Pollution pétrolière au Nigeria, nous le disions hier, Shell va dédommager les victimes.
Le géant pétrolier a décidé de dédommager la communauté du delta du fleuve Niger à hauteur de 84 millions de dollars. Ces populations avaient été touchées par deux graves fuites de pétrole à la fin de 2008 et cet accord vient mettre un terme à trois années de palabres judiciaires. La nouvelle, si elle est bonne, n'a pas vraiment enflammé les populations.
L'argent versé, si vous le comparez au niveau des dommages causés à la collectivité, n'est rien. Parce que nous parlons de communautés ici, où des milliers de personnes dépendent de leurs rivières, de leurs terres pour leur survie et ces propriétés sont détruites. Cela va prendre plusieurs années pour reconstituer ce patrimoine. Alors peu importe le montant d'argent que vous payez s'il ne peut pas réparer les dommages causés.
C'était Patrick Nagbanton, membre de la communauté du Delta du Niger.
Maroc, l'amnistie fiscale a rapporté plus de 2,5 milliards de dollars.
C'est un record, s'est félicité le ministre de l'économie et des finances, Mohamed Boussaïd. Malgré le succès de l'opération, la mesure d'amnistie a pris fin le 31 décembre et ne sera donc pas renouvelée en 2015 selon les autorités marocaines.
Voilà pour la Minute Éco de ce jeudi. Merci Jean-Roger. Et comme je ne vous ai pas vu depuis le début de l'année, eh bien, bonne année à vous. Un condensé de l'actualité sportive à présent avec Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Oui, bonjour Jacques.
Match amical entre le Cameroun et la RD Congo.
Oui, en préparation pour la CAN 2015, les deux équipes n'ont pu se départager un but partout ce mercredi. Un match amical au stade Amadou Aïdjo de Yaoundé. Les Lions Indomptables ont ouvert la marque par Franck Etundi à la 38e minute. C'est Yannick Bolassé, entré en fin de rencontre, qui a égalisé au bout du temps additionnel. Le Cameroun quitte Yaoundé ce jeudi pour Libreville, où il boucle sa mise au vert jusqu'au 16 janvier, alors que la RD Congo va poursuivre sa préparation au centre d'excellence de la CAF à Mbankomo, en banlieue de Yaoundé.
Alex Song prend sa retraite internationale.
Oui, le milieu camerounais qui n'a pas été retenu pour la CAN 2015 a mis fin à sa carrière internationale à 27 ans. Avec effet immédiat, a-t-il annoncé mercredi par l'intermédiaire de son club West Ham en Première Ligue anglaise. Il n'a plus porté les couleurs de sa sélection depuis son exclusion contre la Croatie lors du Mondial 2014.
Pour terminer, la NBA, le championnat de basket nord-américain, un résumé des matchs disputés dans la nuit de mercredi à jeudi. Eh bien, les Cavaliers de Cleveland doivent avoir hâte que LeBron James revienne au jeu, car la puissante formation a subi un troisième revers consécutif, cette fois par la marque de 105-93 face aux Rockets de Houston. Ailleurs dans la NBA, Nouvelle-Orléans 94, Charlotte 98, Milwaukee 97, Philadelphie 77, New York 91, Washington 101, Boston 89, Brooklyn 81, Utah 97, Chicago 77, Détroit 108, Dallas 95, Orlando 90, Denver 93, Phoenix 113, Minnesota 111, Oklahoma City 83, Sacramento 104 et Los Angeles Lakers 89, Los Angeles Clippers 114.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Voilà donc pour le tour d'horizon de l'actualité en Afrique et ailleurs dans le monde. Merci Anne. Vous êtes toujours branchés sur la VOA émettant de Washington. Le Monde aujourd'hui continue avec Jacques Aristide au micro. Retour sur l'attaque contre le siège de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo. Des milliers de personnes se sont rassemblées dans plusieurs villes françaises en hommage aux 12 victimes de l'attentat. L'occasion également d'exprimer leur soutien à la liberté de la presse. Idriss Fall a joint l'un des manifestants à Paris, l'artiste-dessinateur Adrien Vermont.
Je pense que c'était vraiment une réaction spontanée, c'est-à-dire que quand moi j'ai appris qu'il y a eu des attentats contre Charlie Hebdo, la première réaction c'est la stupéfaction et juste après c'est la colère parce que la liberté d'expression c'est vraiment des organes de la démocratie et frapper comme ça des organes essentiels, ça amène vraiment des réactions très violentes. Et quand il y a eu cette manifestation, en fait c'était plus un rassemblement de soutien pour Charlie Hebdo et la liberté d'expression, c'était juste une évidence qu'il fallait être sur place pour faire acte de présence. En fait, tout simplement.
Charlie Hebdo avait fait plus ou moins de la provocation.
Le parti pris de Charlie Hebdo, il est profondément athée, laïque et républicain. Donc eux, leur rôle dans cet organe qu'est la liberté d'expression, c'est de proposer un point de vue que beaucoup de radicaux trouvent radical, à savoir mettre en lumière les travers de toutes les religions, quelles qu'elles soient. Au jour d'aujourd'hui, la religion musulmane a une faction islamiste radicale qui est très active, et donc il y a eu beaucoup d'accrochages avec eux. Il y a déjà eu un attentat, il y avait des menaces de mort qui se faisaient régulièrement pour les auteurs de Charlie Hebdo. Évidemment, il propose une voie qui est assez particulière, mais comme je vous disais, ça fait partie de la liberté d'expression et c'est quelque chose qu'on doit accepter, qu'on doit tolérer au même titre que tout le monde tolère des propos plus ou moins extrémistes au niveau religieux.
Vous-même, vous êtes artiste, dessinateur, me dit-on. Quel effet ça vous fait d'avoir perdu Wolinski et Kabou?
C'est un profond désarroi de savoir qu'aujourd'hui, on peut encore mourir du fait de ces idées. Il s'avère qu'en fait, cette situation, elle est plus courante dans des pays qui ont des problèmes depuis plus longtemps, comme au Proche-Orient, où les populations sont obligées de combattre quotidiennement pour avoir leur liberté d'expression et avoir des gens, justement, qui s'engagent au péril de leur vie pour dénoncer les travers, qu'ils soient politiques, religieux ou sociaux. Et bah là, on a perdu quatre grands noms qui faisaient que la liberté d'expression était réellement vivante et présente en France, en fait, c'était ça qu'ils incarnaient.
Idriss Fall a également recueilli la réaction du secrétaire général de l'Union des associations musulmanes de la Seine-Saint-Denis en région parisienne. Nous écoutons Mohamed Enish.
Notre réaction, c'est celle de tous les Français. C'est un grand émoi, un choc, et entièrement solidaire avec les proches et les familles des victimes. Il n'y a aucune explication à ce qui s'est passé, il n'y a aucune circonstance qui puisse expliquer ce qui est arrivé.
Est-ce que vous pensez que publier des caricatures du prophète mériterait un tel acte?
Non, absolument pas. On est dans un état de droit et d'un grand bénéfice aux musulmans qui bénéficient de cet état d'esprit. Les musulmans ici n'ont pas à mettre en danger que ce soit ici ou ailleurs, donc rien n'excuse ce qui a été fait. Bien sûr, nous avons condamné tout le temps les publications de Charlie Hebdo, parce que pour nous, ce n'est pas de la liberté d'expression, on est dans de la provocation, mais aux musulmans, on dit « ceci ne doit jamais nous pousser à faire ou à réfléchir à faire des choses blâmables ou des choses condamnables ».
Est-ce que vous pensez que ce qui s'est passé ne va pas créer plus de difficultés aux musulmans de France dans leur vie quotidienne?
Tout à fait, exactement. exactement, puisque depuis un moment, on sent qu'il y a une pression, qu'il y a une islamophobie qui monte, que ce soit dans le discours de certains chroniqueurs, de certains journalistes. Il y a une petite minorité, cette petite minorité s'accapare le micro des télés et des radios pour verser leur haine contre les musulmans à longueur de journée. Et la semaine passée, il y a un journaliste qui a dit qu'il souhaite que les 5 millions de musulmans soient déportés de France et que chacun on l'envoie chez lui dans son pays d'origine. Est-ce que ça, c'est pas une provocation, c'est pas une insulte aux musulmans? De discours, de comportement pousse des jeunes musulmans qui n'ont pas une grande culture, une grande sagesse à commettre des bêtises qui sont complètement condamnables et qui nuisent en premier lieu aux musulmans eux-mêmes.
Mohamed Enish de l'Union des associations musulmanes de la Seine-Saint-Denis. Et voilà pour ce volet consacré à l'attaque meurtrière contre l'hebdomadaire français Charlie Hebdo.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Cap maintenant sur le Bénin. Après l'opposition, c'est au tour des syndicats de dénoncer la non-organisation des élections municipales et locales, de même que la non-disponibilité de la fameuse liste électorale permanente informatisée. Une marche a eu lieu hier à Cotonou, où nous retrouvons notre correspondant Peggy Ludovic Dagba.
À travers la marche de ce 7 janvier 2015, les travailleurs béninois réclament un nouveau système de gouvernance à la tête de l'État. Ceux qui se sont succédés ayant jusque-là démontré leurs limites, le moment est venu pour les affiliés de la Confédération des syndicats des travailleurs du Bénin et ceux de la Fédération des syndicats des travailleurs de l'administration des finances, FECINTRA Finance, d'exiger un changement dans la gestion du pays. Laurent Métaillon, coordonnateur du Forum des travailleurs, le Creuset, organisateur de la marche.
Depuis 1960, c'est les mêmes qui font le CETE. C'est les mêmes que nous retrouvons aujourd'hui dans une mouvance, demain dans une opposition. On ne peut plus continuer de vivre ainsi. On ne laissera plus les fruits de notre travail dans les mains des gens déconnectés des réalités du Bénin et des aspirations profondes du peuple. On peut tromper tout le peuple une partie du temps. On peut tromper une partie du peuple tout le temps. Mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps, a dit Abraham Lincoln. Alors, il faut un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
Mais pourquoi les travailleurs dans ce rôle qui devrait revenir aux politiques en principe? Réponse de Laurent Métaillon.
Qui plus que les travailleurs, les ouvriers, même les hommes en uniforme, connaissent le patriotisme, la compétence et l'ardeur au travail de leurs collègues, si ce ne sont eux. Alors, la meilleure manière de détecter les patriotes qui placent les intérêts des citoyens déçus des leurs, c'est reconnaître le droit aux travailleurs et aux citoyens, même aux femmes des marchés, d'élire le responsable de la gestion du bien public et de révoquer dès que l'élu se détourne des objectifs de gestion retenus.
L'une des conséquences de la déliquescence de la situation est la non-organisation des élections communales et municipales à ce jour, selon Théophile Dossou du syndicat des travailleurs, des agents du CNHU, Hubert Koutoukou-Maga de Cotonou, participant à la marche, dit ne pas comprendre le flou qui persiste et qu'il dénonce.
Aujourd'hui, personne, aucun Béninois ne peut savoir quand est-ce que le corps électoral sera convoqué, par exemple. La Corse, les pays, on ne sait pas ce qu'ils disent. C'est une situation opaque que personne ne comprend. Un ping-pong entre le gouvernement et certaines institutions comme la Corse Lépi. Mais les travailleurs ne peuvent pas continuer à garder le silence parce que nous constituons une bonne partie des citoyens et nous pensons à travers la FECINTRA Finance qui est un autre syndicat ami de la CSTB. Les deux, la centrale, la CSTB et la FECINTRA Finance ont décidé de manifester encore aujourd'hui leur mécontentement à travers les rues de Cotonou.
Comme on le constate, après les politiques, les travailleurs exigent eux aussi la tenue des élections au Bénin. Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, pour La Voix de l'Amérique.
La MINUSMA, la mission onusienne au Mali, tient depuis hier, et ce jusqu'au 18 janvier prochain, un débat sur le projet d'accord issu du processus de négociation à Alger entre le gouvernement malien et les groupes armés du Nord. L'objectif, aboutir à la signature d'un accord de paix global et définitif à Bamako, la correspondance de Kassim Traoré.
Prendre en compte les préoccupations de la classe politique et des forces vives de la nation, tel est le but de ces journées. Arnaud Akodjonou, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies au Mali.
La personne qui signe un accord ne peut pas poser des bombes ou des mines contre les populations civiles. La personne qui signe un accord de paix ne peut pas attaquer les soldats et les contingents de la MINUSMA.
Lors des travaux, le camp présidentiel a fait savoir que le document contient des ambiguïtés. Boubacar Touré, RPM.
Tu as le sentiment que le fédéralisme est annoncé sans être mentionné. Au point B, on parle d'une zone de développement des régions du Nord. B et C traitent ça. Mais au point D, deux ou plusieurs autres régions peuvent, dans des conditions déterminées par la loi.
Quant à l'honorable Aïdara Aïchata Sissé, elle pense que la demande de l'administre est nécessaire.
Il y a des accords, mais il faut pouvoir appliquer ces accords-là. Et pour les appliquer, il faut une adhésion populaire. Quand je dis une adhésion populaire, une adhésion par les partis politiques, comme ils sont en train de le faire, une adhésion par la société civile, mais surtout une adhésion par l'Assemblée nationale, qui est la représentation nationale du peuple. Ça manquait.
Cette rencontre ne concerne pas que la classe politique, car il y aura des journées pour les femmes et les jeunes d'ici la fin de cette semaine. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Un gadget qui s'attache au téléphone portable pourrait permettre de détecter rapidement le paludisme et de sauver des milliers de vies humaines. Comment ça marche? L'explicatif nécessaire de Bagassi Koura.
L'Organisation mondiale de la santé chiffre à environ 600 000 le nombre de décès attribuables au paludisme en 2013, ce qui en fait l'une des maladies les plus mortelles au monde, notamment pour la petite enfance en Afrique subsaharienne. Parmi les stratégies les plus efficaces contre le paludisme, la détection précoce et une intervention rapide. Mais les premiers symptômes ressemblent à ceux de la grippe. Ce n'est qu'après une analyse de sang que le médecin peut évoquer la malaria, ce qui prend du temps, de l'argent et coûte des vies par milliers. D'où l'idée conçue par des scientifiques britanniques de développer un gadget qui s'attache à un cellulaire, le transformant en un puissant microscope. Une application chargée sur le cellulaire analyse des données recueillies sur le visage d'un malade et permet de détecter en un temps record le parasite du paludisme. Le procédé ne coûte pas cher et ça marche, s'exclame Jean-Viry Babel, le patron de Janssen, la société à l'origine de l'application.
So we take a high definition picture.
Nous prenons une image à haute définition d'un échantillon de sang. Nous séparons le globule rouge du reste, le globule blanc, les plaquettes et nous examinons chacun des globules rouges individuellement. L'application est facile à utiliser et fiable à 98%. Il suffit de se doter d'une plaque de verre de laboratoire. Il n'y a qu'un seul bouton qui est appelé diagnostic. Donc, placez le gadget sur la plaque de verre et vous le collez contre le sang séché et vous appuyez sur le bouton et cela dit oui ou non, explique Jean-Viry Babel. L'appareil sera mis à l'essai en janvier et février prochains en Tanzanie, au Bénin et en Indonésie. Si les tests sont concluants, la vente pourrait commencer d'ici la fin du mois de mars. À terme, les chercheurs espèrent pouvoir utiliser cette technologie pour détecter d'autres maladies telles que la tuberculose ou la maladie de Lyme.
Lutte contre le virus Ebola. VOA Afrique se mobilise. Rejoignez-nous sur WhatsApp. C'est simple, ouvrez l'application smartphone WhatsApp et envoyez Ebola au numéro suivant 1 202 257 35 83. Je répète, 1 202 257 35 83. Vous recevrez des infos et des conseils de prévention contre le virus. Restez informés, VOA Afrique.
Nous passons maintenant à la plage musicale que nous propose Roger Muntu comme chaque matin. Bonjour Roger.
Bonjour Jacques. Au Sénégal, le groupe Kergui, également engagé dans le mouvement Yanamar, fait sa rentrée avec un double album intitulé Encyclopédie. Ce matin, on écoute Diogoufi.
Walanda aussi. Arriviste au pouvoir, tel faillir c'est le devoir. Ngourgou fainéant, n'y a que vision. Gâchis permanent, de solution. Du balai à la société civile, bougnou casé au palais. Bataille électorale, bi transhumé. Bataille amour rupture. Bataille n'y d'une coupure. Courant, agndor. Réumitak, bagnot d'or. pas de mi fèvre, nyang mi sourd. Diplômé chômé, à quand le sérieux?
Liga yéwo, di kwa yendo, na kwa fannane. Oumous di jalenye, na kwa fannane. Vario go, de kesendo, sonyo kondane.
Et vous nous dites que Kergi veut dire la maison. Alors, le groupe a été créé en 1998 à Kaolack, près de Dakar.
Oui, Jacques, Kergi est aussi une expérience musicale, personnelle, politique et idéologique. Leur nouvel album comprend deux tomes, règlement de compte avec une réflexion sur la crise du mouvement hip-hop et opinion publique qui traite des problèmes sociaux. Les rappeurs dénoncent surtout les maux du pays, les problèmes institutionnels, le népotisme par exemple, Jacques.
Kergi, Diogoufi, merci Roger.
De rien Jacques, une dédicace à notre fidèle auditrice Mariam Koulibaly, el Presidente à Bamako.
Et Roger Muntou vous donne rendez-vous dans RM Show à 20h TU.